Mémoire du maraîchage dans l'Albigeois. Saint-Juéry, vocation contrariée, second épisode.
Est-ce que vous vous souvenez, vous, le premier verre d'alcool que vous avez bu?
On en a toujours vu dans la maison, je ne sais pas comment vous dire, moi, oui. Parce qu'ils récoltaient ça et ils faisaient leur pernon. Avec l'eau de ville, ils achetaient des flacons comme ça et ils faisaient le pernon pour l'été. On avait le pernon pour les dépiquaisons, les vendanges et tout.
Et après, le vin, pareil, c'était pour le vin de table de tous les jours.
Le vin de table de tous les jours. Et celui qu'on avait de reste, à peu près, là, les gens, ils venaient le chercher avec des bonbons. Voilà.
Reine Carène nous reçoit chez elle à Saint-Juéry le 4 mars 2020, l'occasion de se remémorer quelques anecdotes, des pratiques, mais aussi des regrets. Une femme dans ce métier s'est donnée pour le travail qu'elle y a fait, mais on ne refait pas l'histoire, du moins on la raconte pour y remédier.
Est-ce que vous faisiez du vinaigre aussi avec ?
Du
vinaigre ?
Non.
Non ?
Non. On n'a jamais fait de vinaigre. Non, parce qu'il fallait un fût exprès. Il était déjà... Alors le vinaigre, on achetait le vinaigre tout près. Et même encore d'ailleurs.
Oui. Qu'est-ce qui vous manquait à la ferme justement? Parce qu'il y a des choses que vous produisiez pour vous, pour la famille.
Oui.
Et qu'est-ce que vous achetiez vous, que vous n'aviez pas?
On n'achetait pas grand-chose. Hein. On allait à l'épicerie. On allait à la boucherie quelquefois, mais après on avait de la volaille. On avait la volaille, on avait les œufs, parce qu'en ayant le grain. Voilà, moi je ne sais pas comment vous expliquer.
Mais la viande, pareil, la viande de bœuf, vous l'achetiez au boucher du coin?
Au boucher, au boucher. Mais on n'en achetait pas tellement, parce qu'on avait de la volaille, on avait des œufs, on avait... C'est tout. Après, des fois, un pot de pot-au-feu le dimanche, ça changeait. Ouais.
Et le maraîchage, l'entreprise, c'était une petite par rapport à d'autres ou c'était une moyenne ou une grande?
Oh, c'était moyen. Et on allait au marché à Saint-Juéry et puis on allait au marché le jeudi. Et le mercredi soir, dès comme ce soir, on aurait eu la charge prête, tout. Et alors, les gens les plus près, ils venaient se ravitailler et on allait au marché vendre ce qu'on avait de reste.
À votre époque, il y a déjà des gens qui avaient déjà fait des exploitations plus grandes, qui s'étaient agrandies?
Oui, il y en avait de plus grandes, oui, oui, oui. Mais à Saint-Juéry, non. C'était des petits maraîchers. Oui, il n'y en avait pas beaucoup de maraîchers à Saint-Juéry. Il y en avait là-bas... Derrière la ligne, les rouquettes qu'on appelait, et c'est tout.
Et après, il y avait les Avalas?
Après les Avalas, oui. Mais les Avalas, ils étaient plus riches. Ils partaient en camionnette et ils allaient vendre Albi. Voilà, nous, on n'avait pas de voiture, de camionnette, et on vendait tout à Saint-Juéry.
Et vous avez parlé aussi du saut du Tarn. Combien il y avait de personnes dans votre famille qui ont travaillé aussi en tant qu'ouvrier, en plus d'être...
Oh, il n'y a que mon mari, quand on s'est marié, qui travaillait au sauteur. Mon père, il a toujours travaillé la ferme. Oui, on a toujours travaillé là.
Votre mari, il y avait l'usine, mais ça ne suffisait pas pour vivre?
Il était à l'usine. Il travaillait déjà quand on s'est marié, il était maçon. Alors après, il a été à l'usine pour avoir une demi-journée pour nous aider là. Et alors là, après, on vivait bien quand même. Et là, on a pu acheter du matériel pour travailler, les motoculteurs et tout ce que vous voulez.
Parce qu'en tant que maçon, il faisait beaucoup trop d'heures pour travailler au champ, c'est ça?
Ah, ben c'est-à-dire après, il a préféré aller à l'usine parce qu'il avait, au saut du Tarn, il avait une demi-journée. Il avait une demi-journée pour nous aider ici.
C'est-à-dire une demi-journée sur la semaine, en plus du dimanche?
Ah oui, et le dimanche, on tâchait moyenne de ne pas travailler beaucoup. Parce qu'on avait du foin à rentrer, tout ça. Et souvent, on le rentrait le samedi soir. Et le dimanche, après, c'était un peu repos. Et il fallait bien.
Alors vous me disiez, entre Arthès et Saint-Juéry, c'était pas la même mentalité.
Non.
Et est-ce que Lescure, vous connaissiez des maraîchers de Lescure?
Oui, Lescure, mais Lescure, c'était plus loin, c'était pas pareil.
Est-ce que vous avez connu aussi la ferme de la Renaudier ou à Cantepot aussi, vous connaissiez des maraîchers?
Cantepot, la ferme de la Renaudier davantage là. À Cantepot, non. À Cantepot, il y avait des gros maraîchers là-bas. Ils étaient au bord du Tarn et ils avaient des terres, de la loze, tout ça là, oui.
Et la Renaudier, vous saviez, qu'est-ce qu'ils produisaient là? C'est qui était là-bas?
La Renaudier, on savait que, parce qu'il y avait la Renaudier basse et la Renaudier haute qu'ils appelaient. Et alors là, c'était je ne sais pas comment vous dire, c'était plutôt la ferme, la grosse cavalerie davantage.
Donc des grands champs.
Voilà.
Il n'y avait pas de maraîchage là-bas?
Non. Et nous, on avait les terres, on avait le jardin là, jusqu'au fond. Et après, on avait des terres dans la plaine là-bas. Là où on faisait du maraîchage d'abord dans un, et puis on faisait les terres à blé, comme ils appelaient. Et après, on a vendu ça aux HLM.
Est-ce que vous avez vu l'évolution un petit peu de ce qu'on appelle aujourd'hui le bio? Comment vous le voyez
Le bio, je n'y crois pas.
Alors, par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que c'est pour vous, le bio?
Non. Parce que si on ne sulfate pas, si on ne traite pas, on n'a rien.
C'était quoi le traitement que vous apportiez, vous
au... cause de la bouillie bordelaise. Parce qu'on sulfatait la vigne avec ça, et dans le jardin aussi. Parce qu'on arrosait. Et on arrosait, et ça faisait après du mildiou des fois, alors il fallait traiter. De la bouillie bordelaise, on n'avait que ça.
Mais les gens qui travaillent en bio et qui refont justement, comme vous disiez, certaines vendanges à la main, ou certaines récoltes de blé à la main, est-ce que ça vous y croyez?
Non, parce que ça c'est trop modernisé pour travailler à la main. Les gens ils sont feignants.
Ah oui?
Ouais.
Vous pensez?
Hein?
Vous pensez?
Oui.
Au temps, au bon temps, de Awa Fenea. Tic-tic-tic. Les jours et les nuits se passaient au lit. Tic-tic-tic. Traînés par des bœufs dans un char moelleux, on faisait Paris-Orléans en 3 ans, tout en taquinant les belles pucelles en passant. Au temps, au bon temps, des rois fainéants. Tiki tiki tik. D'une main, on mangeait, de l'autre, on buvait. Tiki tiki tik. L'amour se chantait sur des flûtes d'or, et les belles offraient les trésors de leur corps au roi fainéant. Tiki tiki tik. Les baladins jouaient du bilboquet et les ménestrels grattaient leur vielle, et tous les bouffons dansaient en rond. C'était toujours fête. Tous les manants badauds criaient bravo, et parfois pour un privilégié, le bon roi disait à son bourreau: coupez-lui la tête, ça lui fera les pieds, foutez-moi la paix. Au temps, au bon temps, des rois fainéants. Tiki tiki tik. T'aurais une marraine, un beau diadème. Tiki tiki tik. Parmi les oiseaux au bord des ruisseaux, je te vois quenouillant le lin. Enfin bref, comme dirait Pépin, chacun doit mériter son pain. Au temps, au bon temps, des rois fainéants. Tiki tiki tik. T'aurais pas aimé me voir travailler. Tiki tiki tik. Alors, mon amour, ne crie pas toujours. Laisse-moi dormir et sourire au bon temps des rois fainéants. Tiki tiki tiki.
Les rois fainéants. Les rois fainéants. Je suis fatigué, moi.
Enfin, là on a parlé, ça fait tout, depuis tout à l'heure on parle en français. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment ça se disait en patois tout ça, quand vous parliez du jardin, de l'orte?
Mes parents et grands-parents, ils parlaient patois. On comprenait tout le patois.
Et dans le jardin, par exemple, est-ce que vous vous souvenez de quelques mots comme ça autour du jardin?
Les gens qui venaient chercher, on parlait tous en français. Mais après, les grands-parents, ils parlaient patois. On suivait l'évolution en patois. Eh oui.
Est-ce que vous vous souvenez de quelques mots en patois pour dire des légumes, par exemple?
Oh oui, qu'est-ce que je veux dire? Si vous dites t'es calana planta, t'es calana arroja. Ça veut dire qu'il faut les planter, il faut les arroser.
Vous vous souvenez des ordres surtout comme vous
donnez? Oui, t'es calana pour la bêcha. Ça veut dire qu'il faut les bêcher.
Et au marché, les gens, ils vous parlaient patois?
Ah non.
Non?
Non, non, français.
Ouais.
Même les gens qui venaient chercher les légumes et le pain et le plan, on parlait français. Ouais. Oui, on parlait français.
Et vous, est-ce que vous en avez un peu gardé quand même quelques expressions dans la vie courante?
J'en sais, oui. Oui, je ne sais pas comment vous dire. Oui, c'est surtout les proverbes qui riment là. Parce que les choses en français ne riment pas comme avec le patois. Ouais. Je ne sais pas comment vous dire.
Est-ce que vous vous souvenez de chansons?
Des chansons? Oh, des chansons en patois, non. Non, on n'en avait pas.
Et en français, vous chantiez quand vous travailliez, peut-être?
Oui, mais c'était... On n'avait pas de télé. Et alors, avec les jeunes de mon âge, on allait dans une maison à Saint-Juéry-le-Haut où ils avaient une pièce qui n'avait pas besoin. Et là, le soir, on y allait. On jouait aux cartes. Vous savez ce que c'est que les chevalos? On jouait à ça.
Les petits chevaux.
Voilà. On chantait, on était heureux. Hein. Et puis tous les samedis soirs ou dimanche soir, il y avait le bal. On allait danser.
Où ça? C'était où ça?
Et à Saint-Juéry-le-Haut, à la gymnastique qu'on appelait. Vous savez où est l'hôtel Bellevue? Eh bien, dessus, là-haut.
Et c'était un orchestre local qui jouait?
Il y avait un orchestre local, oui. Mais là, le ballet commençait pas à minuit. À minuit, finissait, tout le monde allait au lit.
Et c'était quoi les chansons dont vous vous souvenez?
Il y avait les... Je ne sais pas comment vous dire. C'était ordinaire, mais on était bien. On était heureux.
C'était le seul moment où vous pouviez rencontrer un peu les autres sans travailler.
Voilà, on rencontrait les jeunes de notre âge, oui.
Et ça, c'était bien vu par les parents ou pas?
Ah si, ouais. Et si, parce qu'il faisait nuit, on montait, et les mamans nous accompagnaient. Elles s'assoyaient, elles disaient, elles font tapisserie. Elles s'assoyaient sur un banc, nous on dansait, et à minuit on repartait.
Elles le faisaient qu'avec les filles ou avec les garçons aussi?
Oh, les garçons, ils venaient tout seuls, ils n'avaient pas peur la nuit. Et après, moi, mon frère, il avait quand même 5 ans de moins que moi. Et moi, j'avais 20 ans quand je me suis mariée. Et lui, il avait 14 ou 15 ans, il venait au bal avec moi un peu. Et oui.
Vous avez fait quoi ensuite comme métier? Vous avez fait d'autres métiers?
Ah non, moi, je voulais aller à l'école et travailler. Ma mère n'a pas voulu, j'ai travaillé tout le temps là. Alors j'ai écouté, on était soumis à l'époque, à 15 ans, tu ne penses pas à la retraite, et je suis là sans retraite, sans rien.
Ah oui?
Eh oui.
Vous avez été mère au foyer, en fait.
Voilà,
si vous... On n'a pas reconnu votre travail.
Non.
C'est quand même du travail, j'imagine.
Oh, j'en ai fait du travail jusqu'à l'épuisement.
Et là, vous vous reposez et vous avez un peu de gens qui vous aident quand même autour de vous.
Ah oui, et puis c'est pas ça, mon mari a été opéré du cœur là en 2006, on lui a accordé une aide ménagère, 2 heures. Et alors moi, après, au mois de juillet, je t'ai fait une chute là, dedans, j'ai eu 11 points à la tête, 11 agrafes à la tête, et le docteur m'a dit, il faut que je vous demande l'aide aux personnes âgées. On l'a demandé au conseil général, une dame est venue, quand elle a vu comment je marchais, on me l'a accordé. Ça fait que lui, il a 2 heures et moi, j'ai 2 heures. et ça me soulage bien. Hein.
Et donc, en fait, vous avez récupéré la maison familiale, c'est ça?
Ah oui, je l'ai gardée, moi. Ouais. Oui, et c'est-à-dire qu'avec les terres là-bas, moi, j'ai gardé la maison parce que j'ai gardé ma mère. Et on a partagé les terres. Mon frère, il les a vendues et moi aussi après. Et moi, j'ai gardé la maison.
Donc, heureusement, vous avez ce patrimoine quand même.
Voilà, voilà.
Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent se lancer dans le maraîchage aujourd'hui, là, à l'heure actuelle?
Moi, je dirais que c'est délicat. Hein. Parce qu'autrefois, on avait des saisons. Maintenant, il n'y a plus de saisons. Voyez le temps qu'il a fait, ce n'est pas un temps de saison. Les arbres sont en fleurs et tout ce que vous voulez. Tant, je dirais, ils sont courageux. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on était pas... les premiers motoculteurs sont sortis. Et chez Sassy Lotto, là-bas, le garage, je ne sais pas si vous le connaissez. Eh bien, c'est un gars, on a acheté le premier motoculteur. Après, il disait, on a acheté l'atomiseur, on a acheté tout. On dit, on n'a pas d'argent. Et tous les mois, on lui portait l'argent. Et on s'est modernisé comme ça. On a pu travailler à l'aise.
Mais alors, il y a les bons côtés et les mauvais côtés.
Il y a les bons côtés et les mauvais côtés.
Vous avez un peu perdu en voisinage, en rapport avec le voisinage, mais vous avez gagné du temps libre avec la mécanisation.
Ah oui, c'est-à-dire que le voisin, il n'y avait pas de maison, là, il n'y avait rien, c'était des champs. À côté, il y avait la ferme, il y avait chez Vabre, là, et c'est tout ce qu'on avait. Moi, quand je suis venue ici, j'avais 6 ans, j'étais toute seule, et j'allais à l'école à Saint-Juéry-le-Haut à pied. Il n'y avait pas de car, on ne nous portait pas. Et j'avais peur le soir pour revenir, parce qu'on a vécu à l'heure solaire à l'époque. Et oui, avant la guerre de 39. Et à 4h30, c'était nuit, au mois de novembre. Et on allait au lit. On faisait les devoirs et on allait au lit. On n'avait pas de télé. Après, les télés sont arrivées. C'est pour ça que je dis, ça s'est modernisé vite.
Un peu trop vite, à votre
avis. Un peu trop vite, moi. Oui.
Et alors, si on devait revenir à une des étapes de l'évolution, laquelle, pour vous, on devrait reprendre à quelle
période? La guerre de 39. Ma mère me disait, on vivait bien, parce que les choses étaient stables. Vous aviez, par exemple, un billet de 10 francs, vous saviez qu'avec ces 10 francs, vous faisiez ça. L'année d'après, c'était pareil. Après, ça a évolué, ça a trop grimpé. Il a fallu de l'argent à n'en plus finir.
Et donc tout le monde a été obligé d'agrandir les exploitations.
Voilà, d'agrandir les... Oh, nous, on n'a pas plutôt agrandi, il a préféré, mon mari travaillait à l'usine et ça faisait un apport. Et on avait tout le restant après.
Est-ce qu'il y avait des collègues à lui de l'usine qui venaient aider au champ?
Non, aux vendanges surtout. Aux vendanges et aux dépiquaisons.
Et vos parents à vous, ils continuaient à travailler aussi, à vous aider?
Ah oui, c'était eux les chefs, pour ainsi dire, quoi, oui.
Jusqu'à quel âge ils ont travaillé, eux?
Oh, et mon père est décédé, je vous dis, 65 ans. Et après, ma mère, on a continué. Elle est morte, elle avait 95 ans, il y a 20 ans. On a arrêté, il y a 40 ans qu'on avait arrêté tout ça, quand même, hein, oui.
Mais elle venait toujours au champ, quand même?
Ah oui, ouais. Au jardin. Ouais. Oh, les champs, on les avait vendus. On n'avait plus rien.
Mais jusqu'au bout, elle a fait son propre jardin.
Oui, mais après, elle était âgée, on ne faisait pas grand-chose. Juste pour nous. Ah oui.
Mais sans vendre, juste pour vous.
Sans vendre, oui.
Et alors, comment vous procurez des légumes aujourd'hui? Vous allez au marché, au supermarché?
Eh bien, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, l'hiver, on n'a rien fait. Mais au printemps, on l'en fait. On va planter des tomates. Si mon mari peut passer la bineuse, ou mon gendre la passera, on va planter des tomates, des aubergines. On va planter la salade, non, pas beaucoup, après le grain. Pour un pied de salade qu'on mange, on l'achète prête. Oh, cette année, on n'a pas semé des radis. Après, on va semer quelques radis.
Donc, à l'heure actuelle, avec l'aide de votre gendre, vous travaillez encore le jardin pour vous?
Oh, c'est-à-dire, il passera la bineuse, là. Oui, un peu, l'année dernière, pas beaucoup. Après, moi, je suis tombée au mois de juillet et personne n'a plus rien fait.
Est-ce que quand même, ça vous procure de la joie d'aller au jardin?
Ah, un peu. Ah oui, on a toujours fait ça. Je sais, moi, j'aime bien quand je vais ramasser les tomates, quand je vais les attacher, là, que je vois les bourgeons. Oh, oui, un peu quand même. Oui, oui. Après, on avait des rosiers quand même un peu. Il y avait des roses.
Et ça, c'est qui s'en occupait?
Oh, un peu tout le monde. Moi, ma fille s'en occupait, là. Alors là, vous savez, j'ai perdu gros, hein. Eh oui.
Est-ce que vous vous occupez des fleurs un peu, des fleurs qu'il y aurait autour
non.
de la maison?
Ça m'a jamais plu. Non, parce qu'il y a beaucoup... Et ma fille s'occupait beaucoup des fleurs. Moi, non. Je l'ai au jardin. Encore jusqu'à il y a 2 ans, on semait les haricots. Alors j'allais les ramasser le matin de bonne heure à 6h, 6h30, pour avoir vraiment des haricots fins.
Et donc là, cette année... Pour 2020, qu'est-ce que vous allez mettre en terre?
Allez, nous, on va mettre maintenant des tomates, s'ils veulent en planter, des tomates, des aubergines.
Et c'est vous qui les cuisinez ensuite?
Ah oui.
Ça, c'est toujours les femmes? C'est... Votre mari, il s'est jamais mis à la cuisine?
Oh, il saurait, oui. Mais bon, je le fais. On va aux courses tous les deux, parce que lui, il va avoir 95 ans. On va faire les courses, on range les commissions, après je cuisine un peu, voilà. Demain, je vais mettre des carottes à la poêle. Eh bien, il n'y a pas de plat cuisiné. Une fois comme ça, j'en ai... Si on s'en va à bouteille, je dis, je vais acheter des lasagnes, je les mettrai. Mais c'est rare. C'est rare. D'abord, ils sont chers.
Avant de se quitter, est-ce que vous avez une recette à nous donner? Une de vos spécialités?
Ça, moi, ce que je me régale à faire, c'est la sauce américaine. La sauce américaine, je l'en fais une fois par an pour mon petit-fils avec des queues de langoustes. La sauce américaine.
Alors, c'est quoi la recette?
Oh, la sauce américaine. Vous l'aurez enregistré. Vous prenez un oignon, de l'ail et du persil. Vous l'émincez, vous le mettez dans de l'huile ou du beurre, mais il ne faut pas le laisser brunir, juste colorer. Il faut le fariner. Après que c'est fariné, il faut le flamber. Le flamber, moi je fais avec de l'eau de vie, du cognac, le flamber. Il faut le mouiller avec du vin blanc. Le mouiller avec du vin blanc, de la crème fraîche, et alors un peu, c'est fade. Et le brunir à la tomate, au concentré de tomate, salé et poivré. Et vous laissez cuire toute une après-midi. Le lendemain, ce que je fais, parce qu'il n'y a pas le parfum, j'achète une boîte de sauce américaine toute prête, et je mélange. Voilà. Et après, c'est que de langouste. Je les coupe en 2, 3, ou suivant comme elles sont grosses. Je les lave, je les fais égoutter, je les fais roussir et je les flambe. Et je les mets dans la sauce américaine. Et là, ça cuit une demi-journée.
Et on se régale.
Bon, oh, c'est tout.
Merci à Reine Carême pour son accueil chaleureux lors de cette première rencontre chez elle à Saint-Juéry le 4 mars 2020. C'était le second épisode de ce dialogue. Merci pour la musique à Yael Naim, The Cinematic Orchestra, Mum, Sia et bien sûr Bourville. Ce petit portrait sonore a été fait dans le cadre du projet Mémoire du maraîchage de l'association Albiville Comestible. Merci à toute l'équipe de cette association à retrouver sur internet albivillecomestibletoutattaché.fr ou par mail contact@albivillecomestible.fr. Merci enfin au conseil et au soutien de l'association La Talbert à retrouver sur internet talvera.org. Merci aussi à la Fondation de France. À suivre.